J'aimerais vous donner de la part de Dieu une parole d'encouragement. Amen. Afin que l'on puisse continuer à aller de l'avant. Continuer ce parcours. Le suivre avec Dieu dans cette vie chrétienne. Dans cette vie chrétienne donc que nous menons. Une parole, mes bien-aimés, qui nous incite à agir. Une parole qui favorise notre essor. Une parole qui favorise, je dirais, notre développement spirituel dans notre marche avec Dieu. Dans notre trajet jour après jour avec Dieu, je dirais, notre itinéraire de chrétien. J'ai donc intitulé cette pensée pour vous et pour nous, et pour moi aussi, continuer la marche. Il faut, mes bien-aimés, continuer la marche, c'est-à-dire poursuivre ce qui a été commencé. Et la Bible nous dit, il faut se remettre en route. Nous allons donc le lire dans le livre de l'Exode, bien entendu, un passage que vous connaissez bien, mais qui nous sera utile pour cette méditation. Exode. Chapitre 14, versets 9 à 15. Les Égyptiens les poursuivirent donc et les rattrapèrent alors qu'ils étaient campés au bord de la mer. Tous les attelages du Pharaon, ses hommes d'équipage, de chars et son armée, les atteignirent près de Pim Hahiroth en face de Baal Tsephon. Le Pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, Israël aperçut les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et ils poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent, « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit. » Lorsque nous étions encore là-bas, laisse-nous tranquilles. Nous voulons être esclaves des Égyptiens. Car vaut mieux pour nous cela que de mourir au désert. Moïse leur répondit, n'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, tenez-vous tranquille. Amen. Donc nous verrons ce matin trois points qui caractérisent, disons, notre marche avec le Seigneur. Il nous dit que tout d'abord, le premier point, c'est que nous devons fixer les yeux sur Jésus. Même si les circonstances qui nous environnent, même si tout autour de nous nous bloque, que nous puissions regarder vers Jésus. Le psaume 123, verset 1 nous dit, « Je lève mes yeux vers toi. » Le deuxième point est qu'il y a des choses que nous ne nous maîtrisons pas non plus dans notre vie. C'est la grâce de Dieu, car il a prévu un plan pour chacun d'entre nous. Il y a donc des circonstances, c'est vrai, difficiles, mais Dieu a un plan pour nous. Colossiens 1,6 nous dit, « Vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité. » Le troisième point est que sachant qu'il a un plan pour nous, il va nous demander donc d'agir. Il va nous demander donc de nous mettre à l'œuvre pour son service. Et si je suis arrêté, il va me demander de reprendre la marche. Et si je suis engagé, il va me demander de continuer la marche. On est d'accord, mes bien-aimés? Alors, le premier point, les circonstances de notre vie. Nous connaissons tous ce passage que nous venons donc de lire dans nos histoires, dans notre tête, concernant la traversée de la mer Rouge, de la mer des Joncs, mais dans nos cœurs, c'est vrai. Nous avons l'habitude de bénir le Seigneur, notre Dieu, pour tout ce qu'il a fait donc pendant ce jour, pour l'ouverture de la mer Rouge. Imaginez-vous un peu le tableau. Le peuple est devant cette mer. Les flots vont se dresser à droite, à gauche. Et ils vont laisser passer donc Moïse et le peuple à pied sec. Ensuite, la Bible nous dit que les eaux vont se refermer, que l'armée du Pharaon va finir noyée sur les eaux. Et donc cela, c'est l'œuvre tout simplement de Dieu. Mais ce que nous avons lu, c'est le résumé de l'histoire. C'est l'histoire finie. Pour nos vies, bien entendu, c'est un puissant encouragement pour ne pas se laisser démonter par les circonstances que l'on peut vivre. Et combien peuvent croire que le peuple de Dieu qui était devant cette mer rouge, que cela n'a pas dû être facile pour eux. Dans certaines circonstances, il est facile pour nous chrétiens de dire « Merci Seigneur, quelle belle expérience pour ce peuple, quelle victoire, que nous sommes bénis Seigneur quand nous sommes avec toi, tu nous ouvres la mer, que c'est bon de te voir Seigneur à l'œuvre dans nos vies. » C'est bien de le dire, de bénir Dieu, une fois que l'histoire est finie. Mais ce n'est pas aussi facile lorsque nous sommes en plein dedans, car il y a la mer devant nous, l'armée de Pharaon qui est derrière nous, car la difficulté nous cerne de toutes parts, car elle nous entoure de toutes parts, la difficulté, car nous sommes au cœur, car nous sommes au centre du problème, car la tempête bat son plein dans notre vie et que nous n'arrivons pas à nous dégager. Il est beaucoup moins évident de médire Dieu, n'est-ce pas? Pourtant, la Bible nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». On est d'accord, mes bien-aimés. Donc Israël, qui fuyait devant Pharaon, qui les poursuivait, arrive donc au bord de la mer. Et le constat, il est évident. Un constat d'échec est devant eux. La route, donc, est barrée par la mer. Il y a comme un mur devant eux. Il n'y a pas de solution. Derrière eux, l'armée de Pharaon, elle est armée jusqu'aux dents. Elle est prête à dévorer ce peuple. Et elle nous est dit qu'elle arrive à toute allure. Il y a de quoi avoir peur. Les circonstances sont là. Il y a donc, mes bien-aimés, des heures de frayeur. Il y a des heures d'angoisse. Il y a des heures d'interrogation. Il y a des temps d'impuissance où on se trouve devant des situations indiscutables, où rien ne semble bouger, où il semble qu'il n'y aura pas d'issue. Bien-aimés, cela ne vous arrive-t-il pas de vivre l'histoire du peuple d'Israël et d'être devant cette mer rouge, d'avoir tous ces problèmes? Et combien de fois nous vivons des choses semblables, identiques à ce peuple, oui, qui n'a pas connu, mes bien-aimés, ces heures d'angoisse, ces heures d'épreuves, ces heures de repli, ces heures d'inquiétude, ces heures de découragement où tout semble partir en vrille, où tout semble partir en queue de poisson. Et on ne sait pas dans quelle direction on va, elles s'en vont. Il n'y a pas d'issue. Combien, mes bien-aimés, de fois nous nous sentons désarmés devant ces contextes de difficultés, devant ces situations pénibles, ces problèmes insolubles que nous n'arrivons pas à maîtriser. Il nous est dit qu'il va y avoir de la frayeur dans leur cœur, qu'il va y avoir de la panique devant ce danger. Et il va donc s'en suivre des reproches vis-à-vis de Moïse. Mais pourquoi, je vous le lis, tu nous as fait partir de l'Égypte? Nous étions bien là-bas, Nous avions de la nourriture. Ils avaient oublié qu'ils étaient en esclavage. Il n'y avait pas ce danger, c'est vrai, que leur vie était difficile. Quelque part, il y a ces moments de reproche. Peut-être un doigt levé contre Dieu, un état de cœur, je dirais, amer, un état de cœur déçu. Certains disent, ah, si c'est cela la vie avec Dieu, de marcher avec Dieu, je préfère abandonner, retourner à ce que je vivais avant. Non, mon frère, ma sœur, peut-être ce matin, tu es venu avec ce constat d'échec dans ton cœur et tu dis, vous dites, les circonstances sont trop dures, le contexte est trop difficile, je n'en peux plus, je veux arrêter, c'est trop lourd pour moi. Si vous avez dans votre cœur ces pensées et si vous dites, ma vie éclate, ma vie est cernée d'ombre de toutes parts, serait-il possible de revenir à Dieu dans de telles circonstances? Mon frère, ma sœur, à défaut d'aller de l'avant, serait-il possible de retourner en arrière, en Égypte, au pays de la captivité, au pays de la servitude, que tu en viennes à désirer ce que le méchant fait, que tu te remettes sous le joug de l'esclavage, sous le joug de l'ennemi, sous le joug de la servitude. Dieu te dit ce matin, mon frère, ma sœur, il vous dit, non, je veux votre bien, je veux que vous alliez de l'avant. D'ailleurs, dans Galates, au chapitre 5, au verset 1, il est dit, ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage, sous le joug de la servitude. Le deuxième point, Dieu a un plan pour vous, pour chacun d'entre vous. Quand votre vie est trop lourde, quand vos circonstances sont pesantes, difficiles, quand vous n'en pouvez plus, il y a ce deuxième point. Dieu a un plan pour vous. Amen. Il a dans ses mains vos destinées et il vous amène donc, je dirais, à bon port, votre vie à bon port. Son plan, c'est-à-dire l'ensemble des positions que vous avez pour votre vie, son plan donc à votre égard est, comme le dit sa parole, bon, agréable et parfait, même si le moment présent ne l'est pas. Notre Dieu est le Dieu de la mer rouge. C'est lui qui ouvre cette mer. C'est lui qui conduit son peuple, c'est lui qui nous conduit. Il sait où il mène son peuple, parce qu'il est le Dieu de l'impossible, parce qu'il est le Dieu du miracle. Nous bénissons le Seigneur, car il nous ouvre les yeux. Ouvre mes yeux pour que je contemple tes merveilles, nous dit le psaume 119. Il nous ouvre les yeux et il nous fait donc contempler sa bonté. Il nous fait contempler sa grâce. Il nous fait contempler son salut. Il nous fait contempler sa miséricorde. Bon, bien-aimés, vous êtes d'accord? Alléluia. Notre Seigneur est avec nous. Il est avec vous. Il est avec moi dans la difficulté. Et si nous savons que Dieu a pour nous, dans notre marche quotidienne, dans notre pèlerinage terrestre, un projet de paix, nous pouvons alors nous réfugier dans son cœur, mettre notre confiance dans ce Dieu d'amour. Quand même, si les circonstances sont difficiles, pendant tout le long de mon parcours, je vais prendre conscience que mon Dieu est le soutien de ma foi. Il est l'appui qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible nous dit dans le psaume 18, au jour de mon malheur, tu fus mon appui. L'Éternel est donc notre appui, il est donc notre secours. Mais Dieu est le rocher. Qui permet au chrétien qui a bâti dans sa vie dessus de tenir bon, même quand la tempête fait rage? Tu es le rocher des siècles. Le Seigneur est avec vous dans les difficultés. Il est votre appui, il est votre sécurité dans le danger. Il est bon pour votre vie, il est bon pour la nôtre. Il vous fait du bien, il a donc un plan pour chacun d'entre nous. Le berger ne va pas laisser, ne va pas abandonner son troupeau, aller de droite, aller de gauche. Lisez dans Jean 17. Il connaît ses brebis. Amen. Sans exception, chacun d'entre nous, il les mène, il les dirige, il veut les conduire, nous dit sa parole, vers les frais, vers les bons, vers les calmes, vers les reposants pâturages. C'est vrai que la marche du chrétien n'est pas une marche au hasard de la vie. Dieu a laissé sa parole pour nous conduire. Son Esprit Saint pour nous éclairer. Amen. Et notre intelligence pour nous révéler afin que nous puissions grandir pas à pas avec lui. Il nous est dit donc au verset 13 et 14 d'Exode 14 que nous avons lu, je vous le lis. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel veut vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. L'Éternel combattra pour nous à Toulouse-Ouest et vous gardez le silence. Les choses d'hier ne sont pas forcément celles de demain. Les circonstances que vous vivez maintenant ne sont pas forcément celles de ce soir. Elles seront peut-être différentes quand vous rentrerez chez vous tout à l'heure. Et comme me dit un proverbe chinois que j'ai noté, ne cherchez pas aujourd'hui les oiseaux qui étaient sur le fil l'année dernière. Ce qui veut dire, ce qui est passé est passé. Les choses nouvelles viennent. Elles arrivent, mes bien-aimés. Vos circonstances ne sont pas immuables. Elles évoluent. Je le répète, Dieu a un plan d'amour pour chacun d'entre nous, pour toi, pour vous et pour moi. Dès les premiers versets du chapitre, Dieu avait dit à Moïse ce qu'il fallait faire. Donc Pharaon et son armée, comme nous le savons, le poursuivraient. Qu'il endurcirait le cœur du Pharaon et que le contexte dans lequel le peuple d'Israël se trouvait servirait à faire éclater sa gloire au reste du monde. Amen. Il est Dieu. Il n'est pas dépassé, lui, par les événements. Dieu, même s'il a une mer devant lui, à lui, rien n'est impossible, à notre Seigneur. Parce que, pourquoi ? Il maîtrise chaque situation. Sommes-nous prêts, mes frères et mes sœurs, à entrer dans ce plan de bénédiction que Dieu a prévu, je dis bien, tracé pour chacun d'entre nous? Et si ce matin, Dieu combattait pour vous, si ce matin, Dieu prenait en charge votre situation, alors laissez faire Dieu et gardez le silence. Si ce matin, cette parole de Dieu, pour chacun de nous, pour vous, pour moi, mon frère, ma sœur, était que notre problème, votre problème, notre ennemi serait chassé et qu'en entrant dans ta maison, toute chose soit devenue nouvelle. Amen. Vous diriez, alléluia, Dieu veut combattre pour nous. Il combattra, c'est sûr, et vous, gardez le silence, demeurez tranquille. il y a un plan de Dieu dans cette œuvre donc de bénédiction. Il est bien vrai, et bien souvent, c'est tout à fait humain, les idées, les circonstances s'agitent, foulent dans notre tête. Elles se bousculent même. Et quand le danger est là, en général, on ne prend pas la bonne décision. On panique. On agit dans la précipitation. Non, Dieu te dit ce matin, j'ai un plan pour votre vie. Ne craignez pas, je suis avec vous tous les jours. Je vous aime, pourquoi ? Parce que tu es mon enfant, je prends soin de toi. L'Éternel donc combattra pour vous, et je le répète, faites silence. La parole de Dieu dans notre marche avec lui est le moyen, je dirais, le plus sûr de nous guider. Dieu nous conduit tout simplement par sa parole. Il est préférable de s'en référer à ses guides, de venir devant Dieu, réclamer sa grâce, réclamer sa bénédiction, réclamer une direction et de regarder ce que l'Éternel va faire pour chacun d'entre nous. Les consolations de Dieu réjouissent notre âme, elles réjouissent mon âme, elles réjouissent votre âme. Il est préférable que je sois dans la volonté de Dieu. D'ailleurs, Éphésiens 6,6 nous dit « Soyons des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. » Même si cela fait mal parfois à certains moments, et c'est vrai, mais je sais que s'il est avec moi, je suis au bon endroit. Il veut m'apprendre, me faire comprendre quelque chose pour ma vie. Un autre passage, je ne cherchais pas, Lamentation de Jérémie 3,26 nous dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Et une autre version nous dit « D'attendre la délivrance de l'Éternel, d'attendre le salut de l'Éternel. » Et le prophète Ésaïe, au chapitre 30, verset 15, nous dit « C'est dans le calme et la tranquillité et l'espoir et la patience et la confiance que sera votre force. » Là, je vous ai donné plusieurs versions ensemble. Dieu donc a un plan d'amour pour chacune des brebis du troupeau. Et nous sommes ces brebis. Quel est le but final ? Eh bien, c'est de nous amener au pays, à la Canaan céleste. Les données que nous avons actuellement, que nous ne nous maîtrisons peut-être pas, Dieu veut les prendre en main. Et il désire donc ouvrir son cœur pour nous. Je sais que ma vie n'est pas maintenant une somme de calamités, même s'il y a des situations difficiles. Vous n'avez pas des situations difficiles parfois, mais s'il y en a, Dieu a un plan pour vous. Éphésiens 1,11 nous dit, selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté. Le troisième point et dernier point, Dieu tient les destinées, nos destinées dans sa main. Nous devons donc agir, continuer cette marche ou la reprendre si nous nous sommes arrêtés. Le verset 15 dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Une autre version dit qu'ils repartent, c'est-à-dire qu'ils se remettent en route. À l'heure de l'impuissance, à l'heure de l'effroi, Dieu donne cet ordre, qu'ils se mettent en marche. Voilà ce que nous dit Dieu ce matin. Je le répète, à défaut d'aller de l'avant, serait-il possible de retourner en arrière ? Avec ce Dieu qui nous tient dans la main, qui a ses circonstances dans notre main. C'est à ce moment-là, quand les difficultés sont au summum, que va retentir l'ordre divin de se mettre en marche et non pas de se lamenter. Il y a là véritablement un acte de foi. Il est impératif, il faut faire ce pas avec foi, c'est un ordre qui vient de Dieu, quoique cet acte peut paraître déraisonnable. Dieu nous dit ce matin, ne courbez pas la tête, ne pliez pas les chines, ne faites pas du surplace, ne désirez pas retourner en arrière, ce serait se livrer désarmé à l'ennemi. Mets-toi, mettez-vous en marche, relevez la tête, Dieu vous donne la force. Rappelez-vous la femme de Lot, elle s'est arrêtée, elle a regardé en arrière et elle a tout perdu. Pour résister au découragement, il nous faut poursuivre. Il nous faut donc aller de l'avant. Mon frère, ma sœur, le Seigneur est celui qui nous donne la force de faire ce pas, je dirais, de la foi. Pour que votre mer rouge s'ouvre, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas se décourager. Il faut continuer la marche. Il faut avancer. La Bible nous dit, marchons comme un seul homme et avançons ensemble. J'aimerais faire une lecture que j'affectionne beaucoup et que je vous invite à méditer à la maison. C'est le psaume 1er. Là, nous lirons deux versets, le verset 1 à 3. Psaume 1er. Versets 1 à 3, je vous le lis sur mon canevas. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Il nous est dit que l'homme et la femme, bien entendu, sont heureux quand il médite la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Quand il connaît et entretient cette relation intime avec son Seigneur. Par contre, celui qui veut suivre la voie du méchant n'avance pas. Au contraire, regardez la progression que nous dit la Bible. Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas. Si on baisse les bras, on rejoint la maison du méchant, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous ce matin. Pour nous encourager, voyons donc tout simplement la différence avec celui dont le feuillage ne se flétrit pas, celui qui aime la parole de Dieu. Vous aimez la parole de Dieu ? Alors, vous êtes, il est, la parole de Dieu nous dit, comme un arbre planté. Et elle nous dit, il tient bon, il a les racines qui vont loin. C'est-à-dire, les racines du juste portent du fruit, nous dit sa parole. Elles sont bien enfoncées dans la terre. C'est donc un homme, une femme qui porte du fruit, et qu'il, malgré les tempêtes successives qui secouent l'arbre, et on en a dans notre vie des tempêtes qui nous secouent, il reste enraciné dans la parole de Dieu, parce qu'il sait que Dieu est fidèle, il sait que Dieu est toujours là. Il porte donc du fruit, nous dit la parole, c'est-à-dire du fruit en abondance, du fruit spirituel, du fruit qui demeure, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, malgré les tempêtes successives que vous pouvez avoir dans votre vie. Il est une source d'encouragement, c'est merveilleux, et non pas de résignation, mais de témoignage à la gloire de Dieu, à sa vie. Fidélité. Cette personne-là, ce chrétien-là, il n'est pas amer, il n'est pas blasé, Il est verdoyant. Êtes-vous verdoyant? Il prospère. Prospérez-vous. Cela fait plaisir de se trouver sous ses branches, de se trouver, je dirais, à l'abri de ce frère, à l'abri de cette sœur, même s'il y a des difficultés. Il est verdoyant. Et la Bible nous dit, les justes fleurissent comme le palmier, ils sont pleins de sève, ils sont verdoyants. Est-ce votre cas ? Est-ce mon cas ? Dieu est fidèle à sa parole et il bénit ses enfants. J'aimerais bientôt conclure maintenant en disant, vous aurez des tribulations dans le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean au chapitre 16 et au verset 33. Il faut dire que la tribulation fait partie de l'expérience humaine. Il est dit, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Et j'aime bien parole vivante qui dit, j'ai déjà, voyez ça en avance, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. C'est vrai, nous pouvons passer par des tribulations, il n'en manque pas. Et des circonstances pas faciles, il n'en manque pas. Où les contextes sont fréquemment contraires à ceux que nous souhaiterions. Mais comme ce peuple, sous la conduite de Moïse, a pu mettre sa confiance, sa foi en Dieu, son espérance dans la grâce divine, qu'il avait prévu pour chacun d'eux, une sortie de secours. Dieu a prévu une sortie de secours pour chacun d'entre nous. Et ils ont donc pu se mettre en action et continuer donc la marche. De même, nous aussi, nous pouvons mettre notre confiance en Dieu. Nous pouvons mettre notre confiance dans notre Père. La conclusion. Mes frères, mes sœurs, comme le dit un cantique ancien, jusqu'au bout, je veux te suivre. Va jusqu'au bout avec ton Seigneur. Pas jusqu'au bout de tes forces, hein? Non. Mais jusqu'au bout du chemin, jusqu'au bout de la route, jusqu'à la patrie céleste. Tu t'es engagé, vous vous êtes engagé. Engagé, c'est-à-dire dans l'armée du Seigneur. Le Seigneur vous tient par la main, par sa mort donc, sur la croix. Il a signé le contrat et celui-ci, ce contrat est signé par le sang. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat ? Cette convention, cet acte qui nous lie donc au Seigneur Jésus. Il a fait cet engagement. Tu t'es engagé toi-même. Il est ton compagnon, il est votre compagnon, il vous tient par la main, il veut vous mener encore plus loin, même si le chemin est encore long, même si ton ciel n'est pas encore clair, même si votre ciel n'est pas sans ombre. Chaque matin, vous vous êtes engagés, mes bien-aimés, pour le Seigneur. Et le Seigneur nous dit, moi je suis prêt à honorer mon contrat. Pour vous. Pourquoi ? Parce que je suis avec toi. Je suis avec vous, ton Seigneur qui a signé ce contrat sur cette croix. Il est votre appui, il est votre secours, il est votre délivrance. Et il veut ce matin vous amener encore plus loin. Amen. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira, nous dit le psaume 37 et le verset 5. Le verset de la fin, c'est Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 3 à 4. Voilà. Je vous ai joué un petit tour, je vous le lirai sur parole vivante. C'est plus précis. Écoutez bien. Cherchez, c'est important, cherchez à conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix, car vous faites tous partie d'un seul corps régis par un seul esprit. De même aussi, vous ne possédez qu'une seule et même espérance rattachée à votre vocation commune, c'est-à-dire l'héritage auquel vous avez été tous appelés. Je le répète, c'est-à-dire l'héritage auquel vous avez été tous et toutes appelés. Continuons la marche en 2024 comme nous l'avons fait en 2023. Amen. Inclinons nos têtes et nous allons prier. Seigneur, c'est vrai que parfois, devant les flots fermés de la mer Rouge, devant ce mur infranchissable, nous avons peur. Nous n'avons pas confiance en toi, Seigneur, et nous tremblons. Mais Seigneur, ce que nous voulons, c'est avoir les yeux de la foi. Et nous voulons continuer cette marche avec la foi, remplie d'espérance, remplie d'amour, remplie de volonté. Nous voulons être unis, soudés, comme tu le dis, Seigneur, par ta parole, unis les uns les autres, remplis d'amour les uns les autres. Continuez la marche, Seigneur, parce que nous voulons rapporter la victoire en toi. Nous voulons voir de grandes choses, Seigneur, parce que tu es le Dieu et qui ouvre la mer Rouge devant nous. Tu nous délivres de nos difficultés, Seigneur, et tu veux nous donner ta force, Seigneur. Nous voulons voir nos racines bien imprégnées dans une terre grasse et fertile. Nous voulons, Seigneur, porter du fruit à la gloire de ton nom. Nous voulons être un arbre vert, un arbre planté qui donne des feuilles pour le bon nom de Jésus. Seigneur, afin que des frères et des sœurs puissent venir à l'ombre de cet arbre-là. Seigneur, je te demande de bénir abondamment cette Église, afin qu'elle aille de l'avant, Seigneur, afin qu'elle porte du fruit à la gloire de ton nom, que cette Église puisse enfanter des âmes nouvelles dans le nom de Jésus. Tandis que nous avons les yeux baissés, s'il y a quelqu'un au milieu de nous et qui a besoin de continuer la marche ou de reprendre la marche parce que s'il s'est arrêté, il veut aller de l'avant, il veut porter du fruit, il veut être verdoyant, il veut servir son Dieu, il veut servir son frère et sa sœur. Si c'est le cas, tout simplement, levez la main là où vous êtes et nous prierons pour vous. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui veut continuer la marche, qui veut aller de l'avant? Merci mon frère, merci encore mon frère, merci, merci ma sœur, merci, merci. Ô Seigneur Jésus, je t'apporte ces bien-aimés, je les place devant le trône de ta grâce. Ce sont tes enfants que tu t'es acquis à un grand prix, au prix de ton sang qui a coulé pour nous, au prix de ses souffrances, Seigneur. Mon Dieu, bénis-les, qu'ils puissent, Seigneur, marcher avec toi par la foi, main dans la main. Seigneur, parce que c'est toi qui les conduis, c'est toi qui les dirige. S'ils se sont arrêtés, qu'ils reprennent la marche. S'ils sont revenus en arrière, qu'ils reprennent la marche et qu'ils aillent de l'avant dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.